Deuxième partie. Les vents approchent. Shalan, Kaladin, Adeline, Sadeas.
Chapitre 13. Le chef-d'œuvre du jour. Forme de guerre pour combattre et régner. Forme des dieux, offerte pour Auxir. Invisible, inconnue, vitale à conquérir. Offerte à qui détient la volonté. Extrait du chant du recensement de ceux qui écoutent. 15e couplet. Le chariot roulait sur la pierre Kaotan, avec Shalan perché sur le banc à côté de Blut, l'un des mercenaires au visage impassible que Tevlakf employait. Pelokas, il guidait le chul qui tirait le chariot, mais lorsqu'il croyait qu'elle ne le regardait pas, il l'inspectait avec ses yeux pareils à des perles de verre sombre. Il faisait froid. Elle aurait aimé que le temps change et que le printemps, ou même l'été, s'installe quelque temps. C'était peu probable, dans un endroit connu pour son froid permanent. Ayant improvisé une couverture à l'aide de la doublure de la malle de Jasna, Shalan s'en enveloppa, des pieds aux genoux, tout autant pour masquer l'état de sa jupe en lambeaux que pour se protéger du froid. Elle tenta de se distraire en étudiant son environnement. La fleur du sud des terres gelées lui était totalement inconnue. S'il y avait de l'herbe, elle poussait par zones irrégulières le long du côté sous le vent des pierres, en brins courts et hérissés, plutôt que longs et ondulants. Les boutons de roche ne devenaient jamais plus gros que le poing et ils ne s'ouvraient pas entièrement, même lorsqu'elle avait tenté de verser de l'eau sur l'un d'entre eux. Leur liane était lente et paresseuse, comme engourdie par le froid. Il y avait aussi de petits arbustes grêles qui poussaient dans des fissures et sur des flancs de coteaux. Leurs branches fragiles raclaient le flanc du chariot et leurs minuscules feuilles vertes, de la taille de gouttes de pluie, se repliaient et se retiraient dans leurs tiges. Les arbustes poussaient en abondance, se déployant partout où ils trouvaient prise. Quand le chariot dépassa un massif particulièrement haut, Shalan tendit la main pour casser une branche. Elle était tubulaire, avec un centre creux et rêche comme le sable. « Ils sont trop fragiles pour les tempêtes majeures », déclara Shalan en les levant vers ses yeux. « Comment cette plante survit-elle ?» Blut répondit par un grognement. « Il est de coutume, Blut, » reprit-elle, « d'engager son compagnon de voyage dans un dialogue qui nous divertisse tous deux. »«
Je le ferai, » rétorqua-t-il d'un ton sinistre. « Si je comprenais la moitié de ce que vous baragouinez. »
Shalan sursauta. Elle ne s'était pas attendue à la moindre réaction. « Dans ce cas, nous sommes quittes, » riposta-t-elle, « car vous utilisez plein de mots que je ne comprends pas non plus. D'accord, la plupart sont des jurons. » Elle avait voulu prononcer ces mots sur un ton badin, mais ne réussit qu'à le faire se renfrogner davantage.
« Vous croyez que je suis aussi débile que ce bâton ?»«
Arrêtez d'insulter mon bâton. » Les mots lui vinrent à l'esprit et faillirent lui monter aux lèvres malgré elle. Compte tenu de son éducation, elle aurait dû être plus douée pour tenir sa langue. Mais la liberté, sans craindre que son père se trouve derrière chaque porte, avait sérieusement entamé sa maîtrise d'elle-même. Cette fois, elle se retint de le railler. « La stupidité est fonction de notre entourage, » déclara-t-elle plutôt.
« Vous dites que je suis débile parce que j'ai été élevée comme ça ?»«
Non, je dis que tout le monde est stupide dans certaines situations. Après le naufrage de mon navire, je me suis retrouvée sur la terre ferme, mais incapable de faire un feu pour me réchauffer. Diriez-vous que je suis stupide ?» Il darda un coup d'œil sur elle, mais ne répondit pas. Peut-être, pour un sombre iris, cette question ressemblait-elle à un piège. « Eh bien, je le suis, » reprit Shalan. « Dans bien des domaines, je suis stupide. Peut-être êtes-vous stupide en matière de grands mots. C'est pour cette raison que nous avons besoin à la fois d'érudits et de caravaniers. Garde Blut. Nos stupidités respectives se complètent.
« Je comprends pourquoi on a besoin de types qui sachent faire du feu, » répliqua Blut. « Mais je ne comprends pas pourquoi on a besoin de gens qui utilisent des mots compliqués. »
« Chut !»
répondit Shallan. Ne le dites pas si fort. Si les Palzéris vous entendent, ils risquent d'arrêter de perdre leur temps à inventer de nouveaux mots et commencer à se mêler des affaires des honnêtes gens.
Il lui lança un nouveau coup d'œil.
Il n'y avait pas le moindre soupçon d'humour dans ses yeux surmontés par des sourcils épais.
Shallan soupira, mais reporta son attention sur les plantes. Comment survivrait-elle aux tempêtes majeures? Il fallait qu'elle sorte son carnet de croquis et qu'elle... Non, elle s'obligea à lâcher prise. Peu de temps après, Tevlakf annonça la pause de milieu de journée. Le chariot de Shallan ralentit et l'un des autres s'arrêta à côté. C'était Tag qui conduisait celui-là, avec les deux parches assis dans la cage derrière eux, qui s'affairaient en silence à tisser des chapeaux à partir de roseaux cueillis le matin même. Les gens confiaient souvent ce genre de tâches mécaniques aux parches, pour s'assurer que tout leur temps soit consacré à faire gagner de l'argent à leurs propriétaires. Tevlakf vendrait les chapeaux contre quelques brisures une fois arrivés à destination. Ils poursuivirent leur œuvre quand le chariot s'arrêta. Il faudrait leur ordonner de faire autre chose et les former spécifiquement pour chaque tâche qu'ils effectuaient. Mais une fois formés, ils travailleraient sans se plaindre. Shallan avait du mal à ne pas percevoir leur obéissance comme quelque chose de pernicieux. Elle secoua la tête, puis tendit la main à Blute, qui l'aida à descendre du chariot sans qu'elle ait à le lui demander. Une fois à terre, elle posa la main sur le flanc du véhicule et inspira vivement à travers ses dents. Père des tempêtes, qu'avait-elle donc fait à ses pieds? D'espreintes de douleur sortirent du mur près d'elle en se tortillant, petits fragments de muscles orange, pareils à des mains dont on aurait retiré la chair.
Clarissime? Demanda Tevlakf, qui s'approcha d'elle en se dandinant. Je crains que nous n'ayons pas grand-chose à vous offrir en guise de repas. Nous sommes pauvres pour des commerçants, voyez-vous, et ne pouvons pas nous permettre d'acheter de mets délicats.
Ce que vous avez fera l'affaire, répondit Shallan, s'efforçant d'empêcher que sa douleur se lisse sur son visage, bien que l'esprène l'ait déjà trahi.
S'il vous plaît, demandez à l'un de vos hommes de descendre ma malle.
Tevlakf s'exécuta sans rechigner, même s'il afficha une expression avide en regardant Blute descendre la malle à terre. Ça semblait une très mauvaise idée de lui laisser entrevoir son contenu. Moins d'informations il possédait, mieux elle s'en porterait.
Ces cages, reprit Shallan en se tournant vers l'arrière du chariot. Ces fermoirs, sur le dessus, semblent indiquer que les parois en bois peuvent être fixées au-dessus des barreaux.
Oui, clarissime, répondit Tevlakf. Pour les tempêtes majeures, vous comprenez?
Vous avez tout juste assez d'esclaves pour remplir un seul des trois chariots, poursuivit-elle. Et les parches voyagent dans un autre. Celui-ci est vide et fera un excellent chariot de voyage pour moi. Fixez les parois.
Clarissime, se récria-t-il surpris. Vous voulez qu'on vous mette dans une cage?
Pourquoi pas? Demanda Shallan en croisant son regard. Je suis certainement en sécurité sous votre garde, commerçant Tevlakf.
Oui.
Vos hommes et vous devez être habitués à voyager à la dure, ajouta calmement Shallan. Mais pas moi. Rester assise toute la journée au soleil sur un banc inconfortable ne me conviendra pas. Une voiture digne de ce nom, en revanche, serait une amélioration bienvenue pour ce voyage dans les étendues sauvages.
Une voiture? S'étonna Tevlakf. C'est un chariot à esclaves.
Ce ne sont que des mots, commerçant Tevlakf, répliqua Shallan. S'il vous plaît.
Il soupira mais donna l'ordre à ses hommes, qui retirèrent les parois de dessous le chariot et les accrochèrent à l'extérieur. Ils omirent celui de l'arrière, où se trouvait la porte de la cage. Le résultat ne semblait pas particulièrement confortable, mais au moins lui offrirait-il un peu d'intimité. Shallan demanda à Blute de charger sa malle à l'intérieur, au grand désarroi de Tevlakf. Ensuite, elle y monta et ferma la porte de la cage. Elle tendit la main vers Tevlakf à travers les barreaux.
« Oui, clarissime.
La clé,
dit-elle.
Ah !»
Il la tira de sa poche et l'étudia un instant. Trop long, avant de la lui tendre.
« Merci, répondit-elle. Vous pouvez envoyer Blute me porter mon repas quand il sera prêt. Mais je vais vous demander un seau d'eau dans l'immédiat. Vous vous êtes montré extrêmement obligeant. Je ne l'oublierai pas. »«
Merci. »
Ce mot sonnait presque comme une question, et il s'éloigna d'un air perplexe. « Parfait. » Elle attendit que Blute lui apporte l'eau, puis traversa le chariot clos en rampant afin de ne pas utiliser ses pieds. Il empestait la poussière et la sueur, et son cœur se souleva lorsqu'elle pensa aux esclaves qui avaient été détenus.
Elle demanderait plus tard à Blud de le faire nettoyer par les parches. Elle s'arrêta devant la malle de Jasna, puis s'agenouilla et souleva précautionneusement le couvercle. De la lumière s'en échappa, provenant des sphères infusées contenues à l'intérieur. Motif y attendait lui aussi. Elle lui avait donné la consigne de ne pas se laisser voir, sa silhouette se détachant en relief sur la couverture d'un livre. Shalan avait survécu jusqu'à présent. Elle n'était pas en sécurité, loin s'en fallait, mais au moins n'allait-elle pas mourir de froid ou de faim dans l'immédiat. Par conséquent, elle devait enfin affronter des questions et des problèmes plus grands. Elle posa la main sur les livres, ignorant un moment les lancements de ses pieds. « Il va falloir qu'ils atteignent les plaines brisées. » Moti vibra avec un bruit perplexe. Un son aigu interrogateur qui sous-entendait la curiosité. « Quelqu'un doit poursuivre les travaux de Jasna, » précisa Shalan. « Il faut retrouver Uri Tirou et convaincre les Aléti que le retour des Néantifères est imminent. » Elle frissonna en pensant aux parches, aux visages marbrés qui travaillaient deux chariots plus loin.
« Vous... continuez ?» demanda Motif.
« Oui. » Elle avait pris cette décision à l'instant où elle avait insisté pour que Teflakf se dirige vers les plaines brisées. Ce soir-là, avant le naufrage, quand j'ai vu Jasna avec sa garde baissée... « Je sais ce que je dois faire. » Motif bourdonna, l'air à nouveau perplexe. « C'est difficile à expliquer, » lui dit Shalan. « C'est quelque chose d'humain. »
« Parfait, » répondit Motif avec enthousiasme. Elle le regarda en haussant un sourcil. Il avait beaucoup progressé, et très vite, depuis les heures passées à tournoyer au milieu d'une pièce ou à grimper au mur.
Shalan sortit des sphères pour mieux s'éclairer, puis retira l'un des morceaux de tissu dont Jasna avait enveloppé ses livres. Il était d'une propreté immaculée. Shalan plongea le tissu dans le seau d'eau et entreprit de nettoyer ses pieds.
Avant de voir l'expression de Jasna cette nuit-là, expliqua-t-elle, avant de m'apercevoir à quel point elle était inquiète et épuisée, j'étais tombée dans un piège. Un piège d'érudite. Malgré mon horreur initiale face à ce qu'elle m'avait expliqué sur les parches, j'en étais venue à considérer tout ça comme une énigme intellectuelle. Jasna affichait un tel calme extérieur que j'avais cru qu'elle aussi.
Shalan grimaça en retirant un fragment de roche d'une crevasse de son pied. De nouveaux sprennes de douleur sortirent du sol du chariot en se tortillant. Elle ne pourrait pas marcher sur de grandes distances dans un futur proche. Mais au moins, ne voyait-elle pas de sprennes de pourriture pour l'instant. Elle avait tout intérêt à trouver de l'antiseptique. Le danger que nous courons n'est pas que théorique, Motif. Il est réel et redoutable.
« Oui, » répondit Motif d'une voix grave.
Elle leva les yeux de ses pieds. Il était monté jusqu'à l'intérieur du couvercle du coffre, éclairé par la lumière des sphères de couleurs différentes.
« Tu sais quelque chose au sujet de ce danger? Les parches, les néantifères ?»
Peut-être lisait-elle trop de sous-entendus dans ses intonations. Il n'était pas humain et parlait souvent avec d'étranges inflexions.
« Mon retour, » déclara Motif, « à cause de ça. »«
Quoi? Pourquoi n'as-tu rien dit ?»«
Dire, parler, réfléchir. » « Tout ça difficile. M'améliore. »
« Tu es venu à moi à cause des néantifères, » dit Shalan en s'approchant de la malle, oubliant le tissu ensanglanté qu'elle tenait en main.
« Oui, les motifs, nous, on, inquiets. On a envoyé un, moi. »«
Pourquoi à moi ?»«
À cause des mensonges. »
Elle secoua la tête.
« Je ne comprends pas. »
Il émit un bourdonnement mécontent.
« Vous, votre famille.
Tu m'as observé avec ma famille, il y a si longtemps ?»«
Shalan, rappelez-vous. »
De nouveau, ses souvenirs. Cette fois, pas un banc dans un jardin, mais une pièce blanche et stérile. La berceuse de son père, le sang par terre.
« Non. »
Elle se détourna et se remit à nettoyer ses pieds.
« Je sais... » « Peu sur les humains, » poursuivit Motif. « Ils se brisent. Leur esprit se brise. Vous ne vous êtes pas brisé, seulement fendillé. »
Elle continua son nettoyage.
« Ce sont les mensonges qui vous sauvent, » ajouta Motif.
les mensonges qui m'ont attirée. »
Elle plongea le bout de tissu dans l'eau.
« Est-ce que tu as un nom ? Je t'ai appelé Motif, mais c'est plutôt une description. »«
Mon nom est Nombre, » répondit Motif. « Beaucoup de nombres. Difficile à dire. Motif. Motif me va très bien. »
Du moment que tu ne commences pas à m'appeler fantasque par contraste, commenta Chalan.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Demanda-t-elle.
Je réfléchis, répliqua Motif. Je médite sur le mensonge.
La plaisanterie ?
Oui.
S'il te plaît, n'y réfléchis pas trop, lui dit Chalan. Ce n'était pas une très bonne plaisanterie. Si tu en veux une bonne à méditer, pense au fait qu'empêcher le retour des néantifères dépend peut-être de moi. Rends-toi compte.
Elle termina de soigner ses pieds de son mieux, puis les enveloppa à l'aide de plusieurs autres morceaux de tissu pris dans la malle. Elle n'avait ni pantoufles ni chaussures. Peut-être pourrait-elle acheter une paire de bottes supplémentaires à l'un des marchands d'esclaves. Cette simple idée lui soulevait l'estomac. Mais elle n'avait pas le choix. Ensuite, elle passa en revue le contenu de la malle. Ce n'était là qu'une seule des malles de Jasna. Mais Chalan la reconnaissait comme celle qu'elle conservait dans sa cabine, celle que les assassins avaient prise. Elle renfermait les notes de Jasna, des livres entiers. La malle contenait peu de sources primaires. Mais ça n'avait aucune importance, car Jasna avait retranscrit méticuleusement tous les passages importants. Quand Chalan reposa le dernier livre, elle remarqua quelque chose au fond de la malle. Une feuille volante. Elle s'en empara, curieuse, puis faillit la lâcher sous l'effet de la surprise. C'était un portrait de Jasna, dessiné par Chalan elle-même. Chalan le lui avait donné après qu'elle l'avait accepté comme pupille. Elle avait supposé que Jasna l'avait jeté. Cette femme n'appréciait guère les arts visuels, qu'elle considérait comme frivoles. Au lieu de quoi, elle l'avait conservé ici avec ses affaires les plus précieuses. Non, Chalan ne voulait pas y réfléchir, ne voulait pas l'affronter.
Déclara Motif. Vous ne pouvez pas garder tous les mensonges, seulement les plus importants.
Chalan leva la main et découvrit qu'elle avait les larmes aux yeux. Pour Jasna. Elle avait évité son chagrin, l'avait rangé dans une petite boîte où elle l'avait gardé enfermé. Dès qu'elle laissa ce chagrin monter en elle, une autre douleur s'y ajouta. Une douleur qui semblait frivole en comparaison de la mort de Jasna, mais qui menaçait d'anéantir Chalan tout autant, sinon plus.
« Mes carnets de croquis, »
murmura-t-elle,
« tous disparus. »
« Oui, » répondit Motif d'une voix triste.
« Tous les dessins que j'ai jamais gardés. Mes frères, mon père, maman. »
Tous avaient sombré dans les profondeurs, en compagnie de ces croquis de créatures, et de ses réflexions quant à leur nature, leurs caractéristiques biologiques et aux liens qui les unissaient. Disparus. Entièrement disparus. Le monde ne dépendait pas des stupides petits dessins d'anguilles et de céleste de Chalan. Malgré tout, elle avait le sentiment que tout était brisé.
« Vous en dessinerez d'autres, »
chuchota Motif.
« Je n'en ai pas envie. »
Elle cligna des yeux pour libérer d'autres larmes.
« Je ne vais pas cesser de vibrer. » Le vent ne va pas cesser de souffler. Vous n'allez pas cesser de dessiner.
Chalan passa les doigts sur le portrait de Jasna. Les yeux de l'érudite pétillaient, presque comme si elle était de nouveau vivante. C'était le premier dessin que Chalan ait fait d'elle, le jour de leur rencontre.
Le spiricande cassé se trouvait avec mes affaires. Désormais, il a disparu au fond de l'océan. Je ne pourrais pas le réparer et l'envoyer à mes frères.
Motif bourdonna sur une intonation qu'elle interpréta comme morose.
« Qui sont-ils ? »
demanda Chalan.
« Ceux qui ont fait ça, qui l'ont tué et m'ont pris mes dessins. Pourquoi font-ils des choses aussi affreuses ?»«
Je ne sais pas. »«
Mais tu es persuadée que Jasna avait raison ?»
insista-t-elle.
« Les néantifères vont revenir ?»«
Oui, les sprennes. Les sprennes de lui. Ils arrivent. »«
Ces gens, » reprit Chalan, « ils ont tué Jasna. » Ils appartenaient sans doute au même groupe que Kabzal, et que mon père. Pourquoi tu es la personne qui était le plus près de comprendre comment et pourquoi les néantifères sont en train de revenir ?
Il hésita.
Je n'aurais pas dû poser cette question. Je connais déjà la réponse,
et elle est très humaine. Ces gens cherchent à contrôler le savoir afin de l'exploiter. Afin de profiter de l'apocalypse elle-même, nous allons nous assurer que ça ne se produise pas. » Elle reposa le dessin de Jasna et le plaça entre les pages d'un livre pour le garder à l'abri.